Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver et de vous ouvrir les portes de RTL Soir. Deux heures d'infos en direct pour tout savoir et tout comprendre de l'actualité. Et d'abord une confirmation, RTL vous l'annonçait dès 14h cet après-midi et c'est validé depuis. Emmanuel Macron s'adressera une nouvelle fois aux Français. Ce sera mardi soir à 20h, une allocution pour annoncer une adaptation des règles du confinement face à l'épidémie. Avec à l'horizon les fêtes de Noël, la situation sanitaire s'améliore. Alors le chef de l'État devrait préciser les choses. Beaucoup sont dans l'attente, les petits commerces en particulier. Premier signe peut-être encourageant, le Black Friday est décalé au 4 décembre, décalé d'une semaine, sous réserve d'une réouverture des commerces d'ici là. Ça ressemble à un feu vert pour un secteur dans le rouge. Tous les détails, les dernières infos dans un instant et pour en parler à 18h15, Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, sans doute satisfait de cette avancée. C'est bien sûr le gros dossier de ce soir. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir qui démarre avec le journal et les grands titres. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et alors qu'on étudie ici encore les modalités d'un tout début de déconfinement, on vous emmènera en Chine où l'on vaccine. Et oui, déjà 1 million de personnes y sont passées pour l'instant. Dans ce journal également, ce face-à-face glaçant au procès de Jonathan Daval. Bon séjour en prison, lui a lancé la mère d'Alexia, elle qu'il considérait comme sa propre mère. Le verdict devrait être rendu demain. Michel Fourniret, lui, est ce soir à l'hôpital. Et puis Emmanuel Macron annonce un hommage national après la disparition de Daniel Cordier, l'avant-dernier compagnon de la Libération, mort aujourd'hui. Il avait 100 ans.
Vos incontournables d'ici 20h, la semaine d'Éric Brunet, 18h50, son regard et sa liberté de parole sur les temps forts de la semaine. Liberté d'expression aussi pour toute l'équipe dont défait le monde de 19h15 à 20h. La météo, carte et radar de Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Stéphane.
Encore une belle journée demain.
Oui, on profitera du soleil après dissipation des grisailles matinales sur les trois quarts du pays. Le seul bémol entre la Bretagne et le Nord, avec encore un ciel bien couvert et juste un peu de bruine. La Corse va retrouver enfin un beau soleil, mais il y aura encore beaucoup de vent. Attention aux gelées matinales, moins 4 à Nevers, 2 à Strasbourg et à Agen, 4 degrés à Nîmes et Paris, et les maximales seront comprises entre 6 à Metz et 16 à Perpignan, 11 à Paris, Toulouse et Lille.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Quand les petits commerces pourront-ils vraiment rouvrir? Pourra-t-on aller au spectacle pour les fêtes de fin d'année? Et quid de Noël? Les déplacements seront-ils autorisés? On devrait savoir tout ça mardi soir à 20h. C'est ce jour-là qu'Emmanuel Macron a finalement décidé de prendre la parole. A priori, pour ce qui est des commerces, Armelle Lévy, la date retenue, c'est celle du 28 novembre, samedi prochain, donc dans une semaine.
Oui, une réouverture qui apparaît ce soir de plus en plus plausible aux yeux de tous les commerçants, parce qu'ils ont fait des efforts en échange de cette réouverture, ils ont accepté de reporter tous ensemble d'une semaine le Black Friday pour éviter justement la cohue dans les magasins. Ils ont réglé aussi cet après-midi à Bercy les derniers points juridiques. Ils ont obtenu l'assurance que les services de la répression des fraudes ne vont pas leur tomber dessus si les dates limites de promotion envoyées par courrier ou par email aux clients ne sont plus exactes. Mais attention, il reste encore deux conditions pour pouvoir rouvrir les commerces. Que la courbe diminue, qu'il y ait vraiment une décrue de l'épidémie, et c'est Emmanuel Macron qui pourra nous le dire mardi soir, et aussi que les Français ne courent pas de risque à se rendre dans les magasins.
Et tout ça, donc, ça se fera avec un nouveau protocole plus strict encore.
Oui, qui doit être validé ce week-end par les scientifiques. Les commerçants se sont engagés à doubler la jauge en accueillant un client ou un groupe d'une même famille pour 8 mètres carrés au lieu de 4 actuellement. Pour que les clients se croisent moins, les magasins pourront ouvrir tous les dimanches de décembre et appliquer des horaires élargis. Pour le reste, vous connaissez déjà, masque, gel, plexiglas et marquage au sol obligatoire. Quant à la prise de rendez-vous chez l'opticien ou chez le coiffeur, ce sera recommandé, mais pas obligatoire.
Merci beaucoup Armelle. Armelle Lévy du service économie de RTL. Des commerçants avec qui Jean Castex a pu échanger aujourd'hui. Le Premier ministre était en déplacement à Crozon dans le Finistère et il a été interpellé tous azimuts, Jacques Seret.
Oui, que ce soit à la poissonnerie ou
en plus, on est tout nouveau depuis le 18 août.
Ah oui?
Alors, on a pris du retard avec le confinement.
Ou à la maroquinerie fermée.
Impatiemment.
Alors, comment vous vous organisez?
C'est quand même compliqué.
Je comprends.
Jean Castex est assailli de questions. Il tente de répondre.
Je suis désolé de vous faire tout ça. Mais...
sans toujours convaincre, Catherine, libraire, l'interpelle directement.
J'espère que vous êtes désolé.
Je le suis.
Parce madame. Que vous nous compliquez la vie.
Eh bien, oui, mais vous savez, vous en connaissez la raison.
Et il n'y a pas que les commerçants un peu plus loin. C'est un étudiant qui vient à sa rencontre.
Vous êtes étudiant, toi?
Je suis étudiant en droit, je suis à Paris.
et donc en distanciel.
Voilà,
ça marche.
À distance, ça marche, mais c'est compliqué. Il faut changer les choses. Il y a plus rapport aux études, c'est trop compliqué en ce moment.
D'autres sur la place du marché manifestent.
Le sport, c'est la santé. Le plein air, c'est la santé.
Pour la suppression de la règle des 1 km, en moins d'une heure de déambulation, le Premier ministre a pu faire l'expérience que la pédagogie n'est jamais aussi compliquée que sur le terrain.
Jacques Serret à Crozon pour RTL, le Premier ministre plutôt optimiste. Hein. Nous sommes sur la bonne voie, a-t-il lancé tout à l'heure, rappelant que les décisions annoncées mardi le seront bien sûr selon la situation sanitaire. Si l'on en croit les derniers chiffres, Sophie Jousselin, c'est plutôt bien parti, non ?
Oui, premier chiffre encourageant, la baisse des contaminations, moins 40% la semaine dernière, selon les chiffres de Santé publique France. Le taux de positivité diminue aussi. Sur 100 personnes testées, 15 sont positives, c'est 4 points de moins. Le taux de reproduction du virus est nettement en dessous de 1, à 0,65. Ça signifie que 10 personnes désormais en contaminent un peu moins de 7, contre 12 au début du mois, donc l'épidémie régresse. Mais il ne faut pas croire que la partie est gagnée pour autant. Les courbes des hospitalisations et des réanimations s'infléchissent très très légèrement et restent à un niveau très élevé. Elles ne devraient descendre que très lentement. Dans le journal Le Monde, le président du conseil scientifique affirme cependant voir le bout du tunnel. Mais Jean-François Delfraissy prévient, on ne descendra pas à 5000 nouvelles contaminations par jour au 1er décembre. Chiffre évoqué par Emmanuel Macron au moment du reconfinement. Ce sera plutôt après les fêtes.
Vivement le bout du tunnel, justement. Merci Sophie Jousselin. C'est dans ce contexte que la Haute Autorité de Santé a présenté tout à l'heure la stratégie qui sera celle de la France dès l'arrivée du premier vaccin. Priorité sera donnée aux plus fragiles, comme l'explique Elisabeth Bouvet, qui préside la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé.
On n'aura pas immédiatement accès à toutes les doses de vaccins qui permettraient de vacciner toute la population. Mais quand on fait les comptes de doses de vaccins qui sont probablement bientôt disponibles et des premières priorisations, je pense que nous ne nous trouverons pas dans une problématique de pénurie. Cette étape de vaccination des personnes les plus vulnérables, ce serait donc entre le premier et deuxième trimestre 2021.
Premier ou deuxième trimestre 2021 pour la France, hein, dit la Haute Autorité de Santé. En Chine, la campagne a déjà commencé, oui, avant même que le vaccin ait été homologué, Philippe Dova.
Oui, Amandine, plus d'un million de Chinois ont reçu depuis juillet le vaccin expérimental Covid-19 développé par l'entreprise d'État Sinopharm. Militaires, fonctionnaires, diplomates, étudiants et ouvriers travaillant à l'étranger ont ainsi constitué le panel de cobayes officiellement volontaires. Dans le même temps, Sinopharm a testé deux vaccins dans d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Pérou ou l'Argentine. Sans fournir la moindre preuve de succès clinique des essais en cours, le président de Sinopharm n'a pas hésité, lors d'une interview dans un journal en ligne chinois, a s'autoproclamé cette semaine leader mondial du développement de vaccins. Alors pas question de perdre la face après les annonces de l'américain Pfizer. Xi Jinping s'est engagé à offrir le vaccin chinois au monde entier et dans cette course contre la montre, la question est toute simple, America ou China first.
Philippe Deval, correspondant d'RTL en Asie.
Vous restez bien avec nous, il est 18h08 en ce vendredi soir. Amandine Bégaud revient dans un instant avec cette ultime face-à-face improbable au procès d'Aval. A tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Amandine Bégaud pour la suite du journal. C'est donc demain que Jonathan Daval sera fixé sur son sort. L'audience a pris du retard et les plaidoiries ont été reportées.
Bonsoir Samuel Goldschmidt. C'est vous
Bonsoir.
Qui suivez ce procès pour RTL. Ce qu'on retient de la journée d'aujourd'hui et d'ailleurs sans doute de cette semaine d'audience, c'est ce face-à-face entre Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia et l'accusé, son gendre. Un moment rarissime dans une cour d'assises.
Quand Isabelle Fouillot s'installe à la barre, c'est comme une conversation interrompue qui reprend. Bonjour Jonathan. Bonjour Isabelle. Elle veut comprendre, au-delà de cette volonté de fuir que Jonathan ne cesse d'invoquer, elle veut comprendre pourquoi il lui a enlevé sa fille. Pourquoi tu n'es pas venu nous voir si ça n'allait pas ? Tu avais peur qu'Alexia te quitte ? Si ça n'est pas le nœud du problème, pourquoi tu n'es pas venu nous voir ? On aurait pu faire quelque chose. On n'a rien vu. J'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui. S'il te plaît, lâche-toi aujourd'hui. Tu sais que c'est la dernière fois qu'on se parle aujourd'hui. J'ai besoin de savoir. C'est une dispute, Isabelle. Il faut me croire. Répond Jonathan comme il a toujours répondu. De son point de vue, Isabelle Fouillot n'a pas eu ce qu'elle voulait.
Non, ça n'a pas fonctionné. Il faut que je me résigne à ne pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Je l'ai trouvé depuis le début du procès emmuré, c'est tout. Il faut que je fasse, j'arrête de me torturer l'esprit, je n'aurai pas la vérité. Maintenant, qu'il passe le plus longtemps en prison, c'est tout ce que je demande.
La vérité, quelle vérité souhaite Isabelle Fouillot ? Pas celle, peut-être trop simple pour elle, que lui offre cet homme trop frêle. Elle le regarde une dernière fois. C'est peu, c'est bien peu, Jonathan. Je te souhaite un bon séjour en prison. Adieu.
Samuel Goldschmidt en direct du palais de justice de Vesoul pour RTL. Et ce soir, à l'instant, à une question de l'avocat général, Jonathan Daval déclare « Je dois payer pour les actes que j'ai commis ». Il risque, on le rappelle, la réclusion criminelle à perpétuité. Verdict donc demain. Michel Fourniret, lui, est toujours hospitalisé ce soir après un malaise cardiaque ce matin dans sa cellule. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
On apprend dans le même temps qu'il a donné des indications précise sur l'endroit où il aurait enterré le corps d'Estelle Mouzin.
Absolument, des indications jugées sérieuses par une source proche du dossier. Lors de son transport dans les Ardennes à la fin du mois dernier, Michel Fourniret a désigné l'épaisse forêt de sapins qui encercle le château de Sautou, l'une des anciennes propriétés du tueur en série, vaste de 15 hectares. Les corps de deux de ses victimes ont déjà été découverts dans ce bois, mais Michel Fourniret a peut-être d'autres secrets à livrer, des précisions à apporter, et son état de santé inquiète Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, le père d'Estelle.
Le fait que Michel Fourniret était déjà très atteint sur le plan mental lors de ses dernières auditions et de cet accident grave visiblement de santé, nous pose des inquiétudes pour avoir les dernières réponses que nous attendions, notamment retrouver le corps. Il y a une forme de colère à l'égard de la justice qui a tant tardé à reprendre la piste Fourniret.
Des fouilles ont déjà été effectuées sur le domaine de Sautou fin octobre. De nouvelles recherches seront menées le 7 décembre prochain à la demande de la juge d'instruction Sabine Kéris.
Alice Moreno du service police-justice de RTL.
Amandine, on passe au sport avec une Française médaillée d'or. C'est si rare et ça fait du bien en cette période de crise sanitaire.
La judoka Clarisse Agbenedou décroche un cinquième titre de championne d'Europe dans la catégorie des moins de 63 kilos. Pas seulement un titre de plus pour celle qui était déjà, il faut le rappeler, la plus titrée de toute l'histoire du judo féminin. Écoutez.
Je dirais qu'il a une saveur qui est bizarre. Elle est bizarre parce que c'est vrai que la reprise a été difficile. Même de venir ici à ces championnats d'Europe a été très difficile pour moi. C'est une décision que j'ai prise une semaine avant de venir. Faire une compétition de judo dans le mode Covid, sans spectateurs, rester dans les chambres. C'est vrai que c'est pas facile. Il faut le vivre pour y croire. Mais au moins, on peut dire que la finalité, heureusement qu'il y a une belle médaille derrière. Et finalement, c'était mieux, beaucoup mieux d'être sur le tapis que je l'espérais.
Clarisse Agbenedou, chez nos confrères de la chaîne L'Équipe. Et puis du foot, avec le début ce soir de la 11e journée de Ligue 1. Rennes reçoit Bordeaux, coup d'envoi à 19h. À 21h, Monaco affronte le PSG. Tout cela, ce sera bien sûr à vivre en direct sur RT.
On a appris ce soir la disparition de l'avant-dernier compagnon de la Libération. Daniel Cordier, il avait 100 ans.
Quand la France était en péril, lui et ses compagnons ont pris tous les risques pour que la France reste la France. Voilà ce qu'écrit Emmanuel Macron qui annonce un hommage national et d'ajouter « Nous leur devons notre liberté et notre honneur ». La liberté, justement, écoutez comment Daniel Cordier en parlait. C'était sur RTL en mai 2013.
Il faut donner sa vie à ce que l'on croit. Il faut s'engager pour la liberté. La liberté, ça a un sens. C'est de faire ce que l'on veut. Et aujourd'hui, je suis dans une France libre et c'est quelque chose d'inaliénable, vraiment. Mais hélas, il faut dire que la liberté est toujours fragile, hélas. Mais ça n'a pas d'importance, parce que si l'on est toujours prêt à se battre pour elle, finalement, c'est toujours elle qui vaincra, ça j'en suis sûr.
Sacré leçon que nous donnait Daniel Cordier, c'était dans RTL Soir en mai 2013.
Toute l'actualité c'est RTL.fr, c'est tout simple, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Amandine, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Rappel de l'actualité à 18h30, 18h15, en attendant tout cela, vous restez bien avec nous. Nous rejoignons en direct et en studio dans un instant Jacques Cressel, le délégué général de la Fédération de Commerce et d'Industrie. Le Black Friday est reporté d'une semaine. Tous les commerces vont-ils pouvoir rouvrir le week-end prochain? On a des questions à lui poser, à tout de suite.
RTL Soir.